3 minutes survie, l'art de choisir où monter un camp pour la nuit. Salut à toi, bushcrafter des bois, Indiana Jones du périph', routard, backpacker et autres aventuriers en devenir. Toi qui m'écoutes, tu découvres ma dernière émission, un contenu ultra court sur l'aventure, les situations dangereuses et la survie. 3 minutes survie. Chaque émission propose une astuce survie qui pourrait être utile, ou pas, et on n'espère pas. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un pro, mais je suis blogueur survie depuis 2010, je me positionne plutôt comme un journaliste spécialisé, un curateur d'informations, même si ici, j'avoue, certaines de ces anecdotes qui suivent, me sont déjà arrivées. Allez, on commence, j'ai besoin de toute ton attention, tu m'écoutes bien ? Rien n'est plus relaxant qu'un bon feu de camp en pleine nature, on est nombreux à être d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que des fois ça tourne à la catastrophe. En fait, le bivouac et le camping sauvage, c'est aussi un super moyen de se débarrasser des potes qui squattent trop pendant les vacances. En fait, il y a mille manières de faire en sorte que ça tourne à la catastrophe totale. Tout le monde a déjà été contraint de garder un petit cousin pour les vacances. Tout le monde a déjà voulu se débarrasser d'une petite amie trop collante pendant un week-end, ou de potes trop envahissants. Eh bien figure-toi qu'en s'y prenant bien, on peut toujours vraiment pourrir la vie des gens qui nous accompagnent, histoire de bien leur passer l'envie de nous suivre partout. Au nombre des petites tortures sympas, on a entre autres le réveil par une vache pendant la nuit, les moustiques non-stop toute la soirée, l'inondation éclair de la tente à cause de pluie ou d'une rivière trop proche, l'insolation parce qu'il n'y a pas d'ombre dans les parages, le sommeil impossible parce que le sol est plein de racines et de cailloux, le garde champêtre qui passe pour une visite surprise avec une amende parce que bon, les feux de camp c'est sympa mais c'est un peu interdit partout en France. Ou presque. Puis il y a aussi mon préféré, le coup de pute entre tous. La limace dans les chaussures au réveil. Squish. Alors voilà, en vrai, on n'a pas toujours besoin de se débarrasser de quelqu'un. Mais pour le jour où on aura besoin de monter la tente en pleine nature, voilà quelques conseils qui t'aideront, toi qui écoutes ce podcast. Alors avant de commencer, merci de t'assurer que tu as le droit de planter la tente à l'endroit prévu. Entre les parcs nationaux, les propriétés privées et la législation dans les différents pays, ça sera à toi de regarder ce que tu veux faire et si tu veux être raccord avec la loi. Premier point, la météo. En particulier, comment qu'on fait s'il pleut ? Généralement, il vaut mieux bivouaquer sur une pente toute légère ou une petite butte. En tout cas, pas dans une cuvette. S'il pleut, l'eau va s'accumuler dans les petits creux et ça va pas être génial. Petite recommandation, il vaut mieux éviter les terrains spongieux qui trahissent des accumulations d'eau. En fait, imagine un peu l'effet que ça peut faire de se réveiller dans un sac de couchage complètement trempé par la pluie. Alors, c'est bien gentil, mais comment choisir un point de bivouac quand il pleut ? Déjà, je l'ai dit, il faut choisir un terrain légèrement pentu, et puis tu peux creuser autour de la tente un sillon de 4 à 5 cm de profondeur qui permettra de stocker et d'évacuer l'eau par le sol. Ça évitera un ruissellement intempestif sous la tente. Au niveau de la tente elle-même, il faut s'assurer que le tissu est bien étanche, spécialement le sol. Et puis il faut bien y penser à tendre le tissu intérieur et le tissu extérieur pour assurer une bonne ventilation, s'assurer que la toile extérieure ne touche pas la toile intérieure. Ça permet d'éviter que l'eau ne passe par contact direct. Point numéro 2, est-ce qu'il y a des cailloux, des branches ou des épines ? La zone ne doit pas être trop bosselée et surtout il ne doit pas y avoir de débris. C'est essentiel pour ton confort, mais pas seulement. Les matelas autogonflants d'aujourd'hui sont géniaux, sauf quand ils se percent en pleine nuit. Point numéro 3, attention, est-ce que le terrain est trop à l'horizontale ? Souvent en montagne, c'est difficile de trouver un terrain plat pour un bivouac ou du trek, enfin pour une pause pendant un trek. Alors on peut se laisser tenter par un petit coin sympa parce que la vue est jolie, mais qui est un peu trop en pente. Non, définitivement non. Entre le sac de couchage et le matelas, on va glisser, peut-être même dans la tente, et se retrouver dans un coin moisi. Il faudra penser à aplanir l'emplacement et retirer aussi, bien sûr, les objets pointus en passant. Normal. Point numéro 4. Attention, est-ce que le bivouac est trop exposé au vent ? Le vent est l'ennemi de la tente. Non seulement il faudra bien la mettre en place, mais en plus, ça peut nous empêcher de dormir, et puis ça fait redescendre la température. Alors, une des solutions toutes simples, c'est de choisir un abri. Un abri naturel pour la tente. Comme par exemple se placer du bon côté de la crête, ou derrière des arbres. Ah aussi, et puis quand on monte sa tente, on choisit bien l'orientation de l'entrée par rapport au vent. La plupart des tentes sont conçues pour améliorer l'aérodynamisme et avoir une moindre résistance au vent. Point numéro 5, et un des plus marrants, est-ce qu'on sera bien tranquille ? En trek, en général, on randonne et on s'arrête un peu tôt. Alors il faut faire attention à ce qu'on soit assez loin des habitations, des parcours, des balades, des aires de jeu. Ça, c'est pour éviter un des principaux fléaux de l'humanité. Je veux dire les enfants. Et puis, j'en ai parlé plus tôt, il est aussi possible de se faire réveiller par une vache ou un mouton de bon matin. Et pour ça, il vaut mieux éviter de choisir un coin où des animaux viennent manger. Enfin, Il y a aussi les coins où la faune peut être problématique. Des ours, des loups, des serpents venimeux. Dans ce cas-là, il vaut mieux se renseigner sur les précautions d'usage par les locaux et respecter les consignes de sécurité. Par exemple, quand on campe dans l'Ouest américain, on prend l'habitude d'isoler les restes de nourriture et de la suspendre en hauteur, loin des tentes. Point numéro 6, l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau à proximité? C'est super intéressant, ça permet de faire la vaisselle, ça permet parfois de récupérer de l'eau potable, si on sait la traiter, si on a de quoi faire, ou si elle est directement potable. Mais quand même, si je dors à proximité d'une rivière, ben je m'assure qu'il n'y a pas de barrage un peu plus haut, ou qu'elle n'est pas issue d'un glacier. En fait, souvent je garde une certaine distance de sécurité entre ma rivière et la tente, parce que déjà écologiquement on m'a toujours recommandé 70 mètres, et puis ensuite tout dépend du dénivelé, mais en cas de jour de forte pluie, ça sera intéressant d'être assez loin. Point numéro 7, à ne pas oublier, est-ce que je suis à l'abri des dangers naturels? Il faut examiner l'environnement pour évaluer les risques liés par exemple à des chutes de pierre, j'ai parlé des inondations pendant la nuit, un peu plus haut, mais on peut éventuellement imaginer des chutes de branches mortes ou d'arbres morts. En hiver, il y a aussi les avalanches. Voilà, c'était Marian de guide-2-survie.com. La prochaine émission sortira bientôt, probablement la semaine prochaine, mais d'ici là, tu peux me retrouver sur Facebook, Guide de Survie, ou sur mon site web. Toi qui m'écoutes, tâche de rester en vie, jusqu'à la prochaine fois.